VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. RDC, l'ONU a dénoncé ce vendredi les destructions massives et les souffrances humaines à très grande échelle dans le Kasaï, région du centre du pays où sévit la rébellion de Kamuina Nsapu depuis plus d'un an. Dénonciation qui fait suite à la visite d'une équipe du HCR, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, dans le territoire de Kamonia, à la frontière entre la RDC et l'Angola, très affectée par les violences. Selon une porte-parole du HCR, Cécile Pouilly, 9 villages sur 10 près de la ville frontalière de Kamako ont été entièrement brûlés lors d'attaques menées par des groupes armés ou lors de combats entre ces groupes et les forces gouvernementales. Les enseignants et les agents de santé ont fui ou ont été tués, a-t-elle ajouté. La crise dans la région du Kasaï a commencé il y a un an environ et s'étend maintenant à 9 des 26 provinces de la RDC, selon le HCR. En août, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU avait indiqué que quelques 251 personnes, dont 62 enfants, ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires entre mars et juin dans le Kasaï. En RCA, flambée terrifiante de violence dans la préfecture de la Basse-Côte dans le centre du pays. C'est ce qu'affirme l'ONG Amnesty International dans un rapport publié ce vendredi. Le document fait état de viols de femmes et de destruction de villages. La MINUSCA, la force de maintien de la paix de l'ONU sur place, s'avère incapable d'enrayer ces violences, affirme Joanne Mariner, conseillère principale sur la réaction aux crises à Amnesty International. L'ONG de défense des droits de l'homme pointe du doigt l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, du chef de guerre Ali Daras, proche des nomades Peuls et établi dans la région d'Alindao, sous-préfecture de la Basse-Côte, à environ 300 km de Bangui. Contacté par l'AFP, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, a déclaré que des équipes ont été déployées pour documenter les violations et une base temporaire a été aussi installée dans la ville d'Alindao pour assurer protection aux déplacés et faciliter le travail des humanitaires, a-t-il ajouté. Au Gabon, 16 partisans de Jean Ping, le chef de file de l'opposition, placés en détention après leur arrestation lundi en marge d'un rassemblement de l'opposition à Libreville. Une dizaine d'autres sont encore entendus par la police. Morgane Guiriec.
26 personnes ont été présentées jeudi et 10 autres le seront aujourd'hui, d'après le parquet. 16 ont été placés en détention pour attroupement non armé, ayant troublé l'ordre et la tranquillité publique, a indiqué à l'AFP le procureur de la République, Steve Dong et Sam Dong. Parmi les 10 militants relâchés figurent 6 mineurs et 4 personnes arrêtées à leur domicile, alors que des manifestants s'étaient réfugiés chez eux, a-t-il précisé. Au total, 36 personnes ont été arrêtées lundi à Libreville en marge d'une marche non autorisée de quelques 300 militants pro-Ping qui a été dispersée par les forces de sécurité. Un cadre de l'opposition, Frédéric Massavala, a en outre été arrêté mercredi, a déclaré son avocat Maître Eric Igaïga. Il était toujours en audition jeudi soir, a indiqué de son côté le procureur.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Togo, plusieurs quartiers de la capitale Lomé restent barricadés par la population ce vendredi. Sur les grands axes de la ville et dans des quartiers populaires, les commerces sont fermés, les réseaux téléphoniques fonctionnent encore de manière très sporadique et Internet est toujours coupé dans le pays aujourd'hui. Des camions des forces de l'ordre ainsi que des gendarmes sont postés au carrefour. La tension reste donc très forte après la dispersion à coups de gaz lacrymogène hier soir par les forces de sécurité de la foule massive qui s'était rassemblée dans le centre de la ville. Les manifestants qui se disaient déterminés à rester toute la nuit sur place exigeaient le départ du président Fornia Singbe et la mise en place de réformes constitutionnelles. Le film des événements avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
C'est dans les débandades totales qu'a pris fin la seconde journée des manifestations de l'opposition à Lomé. Les manifestants ont été délogés de la voie publique à coups de gaz lacrymogène. Il sonnait 22h temps universel quand les premières détonations retentissent. Instinctivement, c'était le repli systématique. Les leaders qui étaient au carrefour de Kon prenaient le boulevard du 13 janvier côté est. Les militants se replient dans les rues adjacentes. En quelques minutes, des jeunes s'organisent posent des barricades et ripostent avec des jets de pierre. En face, des forces de l'ordre en rang de bataille usent de grenades lacrymogènes et peut-être en usent de trous. Arrêtez les gaz, crie le chef des opérations, estimant que ces éléments ont la gâchette facile. Les gens dorment, vous allez perturber leur sommeil, ajoute-t-il en les sommant d'arrêter les tirs. L'opposition togolaise réclame dans la rue le retour à la constitution de 1992 qui limite le mandat présidentiel et consacre un mode de scrutin à deux tours. Mais depuis la forte mobilisation des 6 et 7 septembre, les exigences ont changé. En début de soirée, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, demandait encore la démission du président Fornia Sigbé et l'instauration d'une transition. Ce qui est sûr, aucune consigne n'a été donnée à l'issue de ces deux jours de manifestation qui ont mobilisé des dizaines de milliers de manifestants à Lomé. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les autorités sur le qui-vive. Le gouvernement a accusé jeudi des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo de tenter de déstabiliser le pays à travers une série d'attaques à main armée. Plus de détails avec Yakuba Ouedraogo.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a qualifié d'instigateur d'un projet de déstabilisation Stéphane Kipré, gendre de l'ex-président, et Picasse Damana, un ex-responsable du mouvement des jeunes patriotes. Les deux hommes vivent en exil. Les enquêtes après les 7 attaques à main armée ont conduit à l'arrestation de 35 personnes selon le ministre de l'Intérieur. Parmi les 35, 6 militaires et 7 civils présentés comme des miliciens. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a ajouté que le projet de déstabilisation implique des responsables politiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux, a-t-il précisé. Sidiki Diakité a fait ses déclarations après un Conseil national de sécurité extraordinaire tenu au palais présidentiel. La question de la sécurité demeure en Côte d'Ivoire avec des mutineries, des attaques contre les postes de police et de gendarmerie et une série d'évasions de prisonniers.
Nouveau gouvernement au Sénégal, plus d'un mois après les législatives. La nouvelle équipe nommée hier par le président Macky Sall est dirigée par le Premier ministre sortant, Mohamed Boun Abdallah Dione. On y constate des changements au ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice et la création de nouveaux départements du pétrole. La découverte ces dernières années de gisements de pétrole et de gaz pourrait en effet modifier l'économie du pays. Au Kenya, la coalition NASA du chef de file de l'opposition Raila Odinga a lancé ce vendredi un appel à donation auprès de ses partisans pour l'aider à financer la campagne pour le scrutin présidentiel du 17 octobre après l'invalidation par la justice de l'élection du 8 août. Une initiative suggérant que l'opposition éprouve des difficultés à trouver des fonds pour le prochain scrutin alors que le président sortant Uhuru Kenyatta et son coalition ont déjà, eux, repris leurs meetings électoraux dans plusieurs régions du pays. Par ailleurs, le président de la commission électorale kenyane, Wafula Chibakuti, passe aux aveux. Il admet l'existence de défaillances dans le contrôle de l'élection présidentielle du 8 août, invalidée par la justice. Abdourahman Dia.
Dans une lettre interne envoyée à son directeur exécutif et divulguée hier par la presse kenyane, le président de la commission électorale liste toute une série d'erreurs commises par son équipe dans l'organisation des élections. M. Chibukati s'étonne notamment que certains procès-verbaux de bureaux de vote ne présentaient pas les signes d'authentification prévus par la commission. Il se demande aussi pourquoi les téléphones satellitaires achetés au coût total de 6,7 millions d'euros pour couvrir les bureaux de vote de localités reculées n'ont pas fonctionné. M. Chibukati s'interroge enfin sur le fait qu'on compte avec un identifiant et un mot de passe à son nom, créé à son insu, ait été utilisé près de 10 000 fois pour accéder au système informatique de la commission électorale. Saisie par l'opposant Raila Odinga, la Cour suprême du Kenya avait invalidé le 1er septembre la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta en raison d'irrégularités révélées dans la transmission des résultats. Une nouvelle date pour le scrutin est fixée au 17 octobre.
Et pour terminer, dans la Caraïbe, l'ouragan Irma, avec ses vents soufflant à plus de 250 km à l'heure, progresse toujours en direction de la Floride aux États-Unis. Le bilan de son passage aux Antilles s'est alourdi. Au moins 10 morts dans plusieurs îles de l'archipel. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.